Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs et auditrices de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Pour notre mission sur le potager dans la vallée de l'Hérault, nous accueillons pour notre 13e émission M. Luc Ménard, paysagiste, décorateur, maraîcher à la retraite en agriculture biologique à Saint-André-de-Sanconis et animateur de l'école du jardin vivrier aussi à Saint-André-de-Sanconis. Vous êtes sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud et vous pouvez écouter nos émissions sur les fréquences 89, 96.7 et 102.9 MHz ou en podcast à l'adresse rphfm.org. Cette série d'émissions est diffusée à un rythme mensuel en début de mois. Nous décrivons et expliquons la pratique du potager dans la vallée de l'Hérault avec les membres des semeurs du Lot-des-Voies-Larzac et d'autres maraîchers professionnels qui ont la gentillesse d'apporter leur point de vue, comme Luc aujourd'hui. D'abord, je vais demander à Luc de se présenter.
Bonjour, Luc Ménard. Donc, depuis 55 ans dans l'agriculture biologique, donc parmi les pionniers, et qui a travaillé pendant 30 ans un jardin sur 4 hectares à Saint-André-de-Sangonis, en bio, et qui actuellement développe un jardin partagé coopératif qui est dans le cadre de l'association l'école du jardin vivrier, donc au jardin des Mourguettes.
Ouais. Est-ce que tu peux nous dire exactement, un peu préciser, le jardin partagé coopératif?
Eh bien, un jardin partagé coopératif, c'est d'abord un jardin travaillé par tout le monde. Et ce n'est pas des petits morceaux que chacun travaille dans son coin. Donc, ça nécessite une structuration qui permet justement à chacun ensuite de développer son art dans des domaines qui sont un peu plus particuliers.
D'accord, ok. Donc, c'est un petit peu différent du jardin partagé où chacun a sa petite parcelle.
C'est très différent parce que là, bien, on met tout le produit de la récolte sur une table, on partage en fonction du besoin des familles et on vend quelques paniers pour pouvoir, disons, faire tourner la boutique.
D'accord, ok. Ben, ça, c'est une forme nouvelle et qui serait peut-être à encourager, mais enfin, il y a un exemple à Saint-André, hein, donc...
Voilà, il suffit de venir nous voir le samedi.
Ok, donc on part directement sur ce mois de novembre on arrive à la fin d'une période de sécheresse quand même. Hein, si le début de l'année a été pluvieux, l'été et l'automne a été assez sec. Hein, et quelles sont les récoltes hein, d'automne, qui sont assez nombreuses, et surtout, quels sont les travaux à faire au mois de...
Eh bien, la première chose, c'est que vous avez des plantes en pot. Ces plantes en pot, actuellement, c'est pas la pluie qui est tombée qui risque de l'arroser. Donc, vous risquez de les perdre. Donc là, vous avez besoin absolument de les arroser. Mais il y a aussi d'autres plantes dans le jardin qui sont très sensibles, comme des palmiers ou d'autres plantes qui gardent les feuilles toute l'année. Celles-là, elles transpirent toute l'année, donc il faut continuer à arroser.
D'accord.
Et pour les plantes, les actions du moment, c'est on va semer les pois, on va semer les fèves, les petits oignons genre mulouse, ensuite on va travailler aussi sur l'échalote ou des petits oignons de printemps. Donc là, c'est l'ail surtout, l'ail. Et les fèves sont deux parmi le groupe qu'il faut enterrer relativement profond, de manière à ce qu'ils se forment comme il faut.
Mais alors, donc, il faut, si on a une période de sécheresse, il faut arroser ces plantations.
Alors, disons que quand on a mis en place... c'est important de surveiller, c'est-à-dire on va faire un arrosage et après ça il faut maintenir humide sans pour autant noyer, parce que si on noie, eh bien là on va empêcher l'oxygène de rentrer dans le sol et puis on va tuer le sol. D'accord. Et donc les plantes vont crever aussi.
Oui, donc il faut maintenir de l'humidité. Hein,
voilà. Humide, mais pas plus.
Voilà. Bon, on espère qu'il va pleuvoir, c'est le jour prochain. Voilà,
voilà eh ben on nous l'annonce, mais bon.
Et donc, on va peut-être développer une partie qu'on n'a pas jusqu'à présent développée dans cet agenda. C'est l'agriculture biologique. Toutes les personnes qui viennent à ce micro sont des partisans, des pratiquants, surtout des pratiquants de l'agriculture biologique. Donc, ils en vivent. Hein. Ce n'est pas une histoire de bobo parisien, simplement. Hein. Donc, peux-tu nous rappeler en quelques mots un peu l'histoire, l'origine de ce mouvement qui a ensuite fait l'objet d'une réglementation française et européenne, hein. Voilà, faut pas...
À l'origine, on a constaté avec des amis que les agriculteurs utilisaient des quantités phénoménales d'engrais chimiques qui ne correspondaient absolument pas aux réels besoins de la plante. Le résultat, c'est que cela produit des fruits ou des légumes qui sont dilatés par la potasse et par l'azote en particulier, mais surtout parce que ce sont des engrais solubles. Un engrais soluble rentre en force dans la cellule, la fait grossir, et donc dans sa taille supérieure, eh bien, elle n'a pas appris à gérer, et donc elle tombe beaucoup plus facilement malade. Et elle subit aussi par la présence excessive d'éléments salins du genre potasse des blocages d'oligo-éléments qui lui permettent de résister aux maladies. Donc ça a provoqué très rapidement des carences dans les plantes mais aussi dans les animaux. Et donc des personnes qui étaient un petit peu éveillées ont dit bien il faut pas continuer comme ça. Il faut travailler avec la vie du sol. Et par la suite, on a démontré au niveau de scientifiques que ce n'est pas du tout seulement les sels minéraux qui nourrissent la plante, mais une quantité impressionnante de macromolécules qui sont transformées par le sol, les champignons, les algues, les petits virus, qui sont dans le sol et qui font que finalement la cellule est tout à fait capable d'assimiler des macromolécules et donc n'a pas à forcer pour les fabriquer.
Mais il faut quand même, dans l'agriculture biologique, on apporte quand même du compost, de la matière organique. Alors comment cette matière organique interagit justement pour faire pousser les plantes ?
Alors matière organique, oui, c'est justement c'est du compost, c'est pas obligatoirement du fumier. Parce qu'un fumier, tel qu'il est, bien lui-même va avoir des éléments un peu trop solubles. Et à la première pluie, toutes les matières solubles partent dans les sources et polluent les sources. Alors que si on le travaille dans un compost, on obtient une matière qui va être beaucoup plus intéressante, car tout va être bloqué. Les excès d'azote vont se bloquer sur la paille surtout on va développer dans un compost bien fait toute une microflore, biodiversité pour pouvoir obtenir justement des petits cuisiniers pour la plante qui vont fabriquer des tas de petits plats qui vont être vraiment très bons pour qu'elle se développe comme il faut.
Bon, très bien, l'image est tout à fait amusante, les petits plats pour les plantes, hein, voilà. Mais on apporte souvent des grosses quantités de fumier et de matières organiques de compost. Hein.
Au départ, on en a besoin parce que depuis des années, avec l'agriculture industrielle, on a utilisé justement ces engrais qui ont détruit une grande partie de l'humus présent. On sait qu'on pense qu'une fertilité dans un sol est à partir de 5% d'humus.
Ah, d'accord, 5% d'humus.
5% d'humus, ce qui représente à l'hectare une quantité phénoménale. Si on l'utilise autrement, si on n'a pas ces quantités-là, bien, il vaut mieux mettre du compost comme il faut en grande quantité sur une petite surface. Cette petite surface-là va produire comme il faut. Et puis le reste, eh bien, faire des engrais verts. D'accord. Et pas essayer d'avoir des productions, parce qu'il n'y aura jamais de production abondante en agriculture biologique si on n'arrive pas à un certain taux d'humus.
Oui. Alors, ce qu'il y a, oui, tu as parlé un peu des engrais verts. Il faudrait peut-être. Tu nous dis, il y a différents types d'engrais verts suivant ce qu'on veut faire. Entre le seigle, l'avoine,
les... Alors, les engrais verts, ils ont tous un peu leurs caractéristiques. Si on travaille avec de la moutarde, on va donner du soufre au sol.
Excuse-moi, répétez exactement pour les auditeurs ce que c'est qu'engrais vert. Hein.
Un engrais vert, c'est d'abord une plante que l'on sème volontairement dans un terrain. Et cette plante sera détruite avant la fin de la floraison et réintégrée au sol. Et c'est à ce moment-là qu'elle va apporter au sol le maximum d'éléments nutritifs, mais toujours après l'avoir fait un petit peu sécher. Hein, on ne va pas l'introduire directement dans le sol, parce que si on la mettait directement, elle risquerait de produire une fermentation putride.
D'accord. Et donc, il y a différents types d'engrais verts.
Dans les engrais verts, il y a de nombreuses plantes qui peuvent servir d'engrais verts.
On a parlé de la moutarde tout à l'heure.
Alors, la moutarde, elle va libérer du soufre. Si on regarde tout ce qui est légumineuse, ça va plutôt libérer de l'azote. Tout ce qui est graminé, ça va apporter de la matière carbonée en plus grande quantité. Et puis, du sarrasin, ça va être plutôt le magnésium que ça va développer. Et ainsi de suite. Chaque plante dans le sol va apporter des éléments différents.
Oui,
donc, en général, quand on fait un engrais vert, eh bien, on va mélanger plusieurs plantes qui sont complémentaires, qui vont donc s'aider à pousser les unes les autres et qui vont ensuite donner le maximum de matière organique combinée pour pouvoir développer le taux de carbone du sol.
Oui, donc toi, tu recommandes l'utilisation d'un mélange d'engrais vert.
C'est vraiment très rare que, à part des exceptions comme le sainfoin, qui arrive à être équilibré tout seul, eh bien, la plupart du temps, on mélange deux ou trois plantes différentes pour pouvoir faire le maximum de production de qualité. Et on constate que dans certaines parties où on sème, il y en a qui se développent, certaines variétés se développent plus que d'autres.
D'accord, en plus.
Et donc, ça produit un auto-équilibrage.
Donc là, on a parlé des engrais verts, on a parlé un peu en général donc, de l'agriculture biologique. Alors, il y a différents labels qui sont, entre guillemets, de l'agriculture biologique. C'est donc déjà, entre il y a le label européen, le label français. Je sais que les États-Unis, ils ont un label Organic Production, mais qui est un peu différent, tout ça. Et Nature et Progrès, comment se situe Nature et Progrès par rapport à l'agriculture biologique?
Nature et Progrès a un système différent de contrôle, parce que ce sont des consommateurs et un comité donc local qui contrôle les agriculteurs. Donc, au niveau du principe, c'est très intéressant. Au niveau de la compétence des gens, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Il faut absolument qu'il y ait des auto-formations importantes des membres. Par rapport au reste, eh bien, c'est une aberration extraordinaire. Pour pouvoir avoir une mention bio, il faut payer un organisme certifié par l'Europe pour pouvoir garantir qu'on est en bio.
Voilà, mais Nature et Progrès, c'est pas, quand on est Nature et Progrès, on n'est pas forcément en agriculture bio, on n'est pas forcément certifié bio.
Bien, Nature et Progrès n'est pas reconnu, enfin n'a pas fait, ne peut pas faire les démarches reconnues par l'Europe pour pouvoir faire une certification bio. Donc, une certification Nature et Progrès ne peut même pas se revendiquer bio parce qu'actuellement, c'est totalement réglementé. Il faut absolument avoir une certification reconnue par l'Europe.
Et cette certification reconnue par l'Europe, oui, elle est beaucoup utilisée dans la production viticole.
Elle est utilisée dans toutes les productions. Et elle est en déviation constante par rapport justement au développement du bio qui est de plus en plus important. Et donc, ce bio de plus en plus important intéresse des gens qui ont des sous pour pouvoir essayer de faire un peu plus de sous encore. Et donc, on arrive à des gens qui demandent des dérogations pour traiter et puis et qui utilisent des vinasses de betterave qui sont des engrais solubles et donc qui n'ont rien à voir avec une agriculture biologique qui permette d'avoir une alimentation équilibrée.
Mais est-ce que là, est-ce que le mieux n'est pas ennemi du bien ? Est-ce qu'il ne faut quand même pas encourager le développement de l'agriculture bio malgré ces dérogations souvent un peu excessives et rapides.
Voilà. Alors c'est très bien que le consommateur soit sensibilisé au bio. Ça serait beaucoup mieux si on arrivait à réguler justement les gros pouvoirs financiers qui veulent prendre des parts de gâteau sans avoir aucune conscience de disons de ce qui est vraiment la santé des gens.
Oui, donc toi, tu mets bio et santé des gens, mais est-ce que c'est peut-être pas dans l'argument de communication des vrais agriculteurs bio, est-ce que la santé des gens est suffisamment mise en avant,
c'est ça ? Non, pas du tout. Non seulement c'est pas du tout mis en avant, justement, l'argumentaire des bio, eh bien, il serait quand même beaucoup à encourager, comme par exemple la concentration en éléments nutritifs d'un aliment bio véritable par rapport à un aliment du commerce. Donc ça fait des grosses différences.
Ok, bon. Enfin voilà, donc on va arriver à la fin de notre émission. Hein, c'est rapide, hein, il y a beaucoup de sujets. Hein, on a encore 3 minutes, me dit voilà. Donc, si tu as quelque chose à ajouter.
À ajouter, disons que je pense qu'il faut vraiment se mobiliser pour pouvoir faire que on aille voir l'agriculteur en question qui est local et que c'est celui-là qu'il faut encourager et non pas l'agriculteur qu'on trouve dans un supermarché parce que le local, eh bien, on peut aller voir si vraiment il travaille comme il faut. Donc le circuit bio local, c'est beaucoup mieux.
Ah oui, donc toi, oui, mais ça, c'est bon pour les personnes qui habitent en zone rurale ou comme nous, ici, à Saint-André-de-Sangonis. Mais quand on habite au centre de Paris ou au centre de Montpellier même, hein, comment faire ?
Ben, il y a des marchés bio. Et donc là, des gens peuvent en trouver. Et puis après, eh bien, est-ce que ça vaut pas le coup de se déplacer pour aller chercher un paquet d'oignons ou de pommes de terre dans la campagne le week-end quand on va faire une balade chez un agriculteur bio ?
Oui, je suis d'accord aussi. Voilà. Donc ici se termine cette 13e émission de l'agenda du jardinier sur les semences paysannes. Nous remercions Luc Ménard en agriculture biologique et son association, l'École du Jardin Vivrier, d'être venu nous en parler et nous avoir, encore une fois, défendu l'agriculture biologique et dans notre région. J'en profite pour annoncer un événement, c'est le dimanche 16 novembre à Perrette, par l'association Nature et Progrès, le marché d'hiver et des producteurs. Je remercie toute l'équipe de Radio Pays des Roux, RPH Sud, de nous permettre de nous exprimer, Maëva, Samuel et Axel, qui est toujours aussi efficace à la technique. Nous remercions aussi tous nos auditeurs et nos auditrices de bien nous écouter sur ce sujet du jardinage. Merci.